Aujourd'hui, le portrait de famille de Sophie Boisvert, maman d'Ariel qui a 11 ans. Vous savez, comme à l'habitude, hein, vous commencez à être habitué, le concept de cette émission-là, c'est de s'inspirer d'une réalité familiale. Donc, j'ai discuté avec Sophie de ses préoccupations, de ses réflexions, de son parcours aussi pour construire cette émission. Merci d'être là. Merci de nous présenter ce portrait de famille aujourd'hui, celui de votre famille Baudouin-Boisvert, votre mari. Futur mari, hein?
Oui.
Vous vous mariez dans un an, c'est ça?
Ben, en fait, en juin.
En juin. Oui. On est là aujourd'hui pour parler d'Ariel. Ariel qui a 11 ans, qui vit avec la neurofibromatose, qui est une maladie plutôt rare, assez méconnue. On est là pour en parler davantage. Mais tout d'abord, cette photo que vous avez choisie de nous proposer, qui est diffusée en ce moment sur nos médias sociaux, sur notre web. Magnifique photo qui témoigne de votre goût du voyage.
Oui, tout à fait. J'avais plusieurs photos qu'on aimait tous les trois, mais celle-là est ressortie particulièrement parce que c'était notre premier voyage à Paris. Mais c'était des moments magiques que nous y avons vécu, même s'il y avait une canicule. Et il y a un moment particulier qu'on n'oubliera jamais, c'est celui où Ariel, la première fois, a vu la tour Eiffel illuminée le soir, alors qu'on était sur un des nombreux ponts, à Cadenas, entre autres. Et jamais j'oublierai ses yeux, son regard. C'est comme si... C'est comme si elle avait toujours vécu à Paris, cet enfant-là, étonnamment.
Ariel, elle adore voyager. Vous voyagez avec elle depuis qu'elle a 8 mois, quelque chose comme ça?
Oui, on s'était dit qu'on n'arrêterait pas de voyager lorsqu'on aurait un enfant. Elle nous suit. Elle a même plus de patience dans toutes les dédales de douane et d'avion que si on prend la voiture. Donc oui, c'est une bonne voyageuse.
Neurofibromatose, on en parle aujourd'hui, c'est la maladie avec laquelle vit votre fille. Diagnostic qui est arrivé lorsqu'elle avait 3 ans et demi. Est-ce qu'il y avait des doutes, est-ce qu'il y avait des signaux qui témoignaient qu'Ariel allait pas bien ou qu'elle avait quelque chose?
Non, pas du tout. En fait, les premières années précédant le diagnostic, on allait souvent dans des urgences parce qu'elle était constipée. Elle ne s'alimentait plus, elle ne mangeait, il n'y a plus rien qui rentrait, elle faisait de la fièvre. Donc, on a fait plusieurs urgences là, sur la Rive-Sud et personne n'avait jamais levé le drapeau de quoi que ce soit. Et pourtant, elle avait des taches café au lait que ma mère avait remarquées dès sa naissance. Elle m'avait dit, tu surveilleras ça, tu sais, des fois, on ne sait pas ce que ça cache. Mais sans plus. Et le dernier épisode qu'elle a eu à ce moment-là, Ariel, c'est là qu'on s'est ramassé à l'urgence de Sainte-Justine. On était tannés de faire la tournée des hôpitaux à jamais rien trouver. Et c'est l'urgentologue de Sainte-Justine qui nous a demandé, avez-vous déjà consulté en neurologie?
Pourquoi en neurologie?
Et c'est là qu'elle nous a dit, bien, il y a des taches café au lait, ça cache peut-être autre chose. Et de là, bon, on est embarqué dans la spirale de Sainte-Justine avec tous les tests possibles, résonance magnétique, et que le diagnostic est tombé à ce moment-là.
Dans la spirale des spécialistes aussi, est-ce qu'elle a dû en voir beaucoup avant d'avoir un diagnostic?
Non, c'était vraiment juste le neurologue, la résonance magnétique, c'est tout. C'est après où on a poussé un peu plus, parce que c'est une équipe multidisciplinaire là, qui prend en charge à ce moment-là les enfants. Donc, après ça, on est allé un peu plus loin là, au niveau des oreilles. On voit encore le neuro-ophtalmologiste. Ouais. Donc, ça, c'est un suivi aussi. Là.
Et Sophie, lorsqu'on vous dit neurofibromatose, quand ce mot-là, ce terme-là tombe, qu'est-ce que ça résonne? Premièrement, c'est un terme assez méconnu. Là. Ça fait quoi comme onde de choc?
On ne savait pas du tout, évidemment, ce que c'était. Et on nous a dit les grandes lignes à l'hôpital, mais sans plus. Je pense que moi, personnellement, mes oreilles ont arrêté de fonctionner à ce moment-là. J'avais aucune idée. Mon conjoint, qui est très, très, très curieux, au retour à la maison, est allé sur Internet puis il m'a demandé de ne pas trop lire là-dessus parce que ça pouvait me dérangeait encore plus profondément parce qu'on s'est retrouvés dans le néant, à pas trop savoir où est-ce qu'on s'en allait avec cette maladie-là. Tout était possible. Tous les scénarios étaient possibles par rapport à le futur.
Oui, à comment cette maladie peut se manifester. Oui. C'est une maladie qui est d'ordre génétique, donc c'est un gène défectueux qui est transmis par le parent. Donc, vous portez ce gène-là, vous ou André, votre conjoint, Sophie?
Oui, bien, j'ai cru comprendre que c'est ça, le mélange des gènes qui a causé un peu ça, là. Mm-hmm. Mais on ne sait pas encore d'où ça vient, d'où les besoins en recherche.
Oui. Donc, vous, le réflexe, c'est de peut-être moins en savoir au départ. Votre conjoint veut tout savoir. Quand ça arrive, un diagnostic comme ça, on aime mieux pas savoir ou comment les mois qui suivent s'enchaînent?
La filière numéro 13 est très pratique dans ce cas-là parce que ça nous permet de continuer et d'avoir une certaine normalité. Filière qu'on ouvre à tous les 6 mois depuis ce temps-là.
Ouais.
Et qu'on fait face à l'inconnu à chaque fois, parce qu'à chaque période de croissance, on est devant l'inconnu, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se développer, est-ce que ça va se développer. Alors, c'est comme ça que nous, on a choisi de faire face, de garder une normalité et d'espérer que... Il n'y aura rien qui va se développer davantage.
Oui, et que les recherches auront le temps d'avancer suffisamment pour trouver une façon de ralentir ou de contrer la maladie. Quand Ariel est née, Sophie, vous aviez 39 ans, donc une certaine forme de maturité et d'expérience. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans la réception, la gestion de cette nouvelle-là?
Oui, sûrement. Il y a un aspect maturité. Il y a le temps aussi. Quand on décide d'avoir un enfant à cet âge-là, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, ce qui n'est pas vraiment un sacrifice parce que c'est de l'amour de toute façon. Et donc, peu importe que l'enfant soit malade ou pas, je voyais pas de... Pour moi, c'était ma vie.
Ouais.
On l'accueille et on fait avec et on trouve des solutions.
Ouais. En même temps, et même Mathieu, derrière sa console, l'a remarqué, lors de votre arrivée, vous avez une poignée de main solide, un sens de l'humour qu'on remarque tout de suite, beaucoup d'aplomb. Ça aussi, ce sont des qualités qui ont été développées avec les années ou qui étaient déjà là comme un outil pour se dépatouiller avec cette nouvelle.
Oui, j'ai toujours été quelqu'un qui avait... cette personnalité-là. Ça peut être sorti plus début trentaine, je dirais, mais c'est
garder
c'est
espoir.
Oui, c'est ça. Donc, non, ça m'a aidé certainement. Il y a une force en moi, c'est sûr. Tout à fait.
Lorsqu'on s'est parlé au tout début, Sophie, et que l'on a décidé de présenter votre portrait de famille, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi la neurofibromatose, tous les ressorts que ça peut engendrer, les manifestations, les effets, la recherche. Et ça nous prenait un professionnel de la santé, un spécialiste. Donc, on se dirige du côté du CHU Sainte-Justine pour parler avec Dr Sébastien Perrault. Il est neurologue, pédiatre et chercheur. De retour à Sophie Boisvert, bonjour. Rebonjour, Sophie. Cette question tout à l'heure au Dr Perrault, à savoir, bon, avec la croissance, est-ce que les symptômes arrêtent? Vous espériez un oui, j'imagine, Sophie.
Oui, tout à fait. Oui, j'espérais un oui. Parce qu'on va rester dans cet état-là de filière numéro 13 qu'on ouvre et qu'on ferme encore longtemps. Mais c'est ça. L'important, je pense, pour nous, en tout cas, tout comme pour Ariel, c'est de continuer une certaine normalité et de ne pas en faire une victime. Tout va bien. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Elle est suivie et ça, et l'équipe du CHU Sainte-Justine, quand on est pris en charge là-bas, tout roule, tout coule, tout va bien. J'ai pas d'inquiétude.
Et de focaliser sur le moment présent.
Tellement.
Oui.
Vraiment.
Ça, c'est quelque chose qui s'apprend ou qu'on a, que vous aviez à l'origine?
Non, j'ai pas toujours été comme ça, mais je pense que le diagnostic a fait en sorte qu'on s'est ravisé un peu, autant mon conjoint que moi, par rapport à c'est ça, la perspective de vie professionnelle a changé un peu, je dirais.
Aussi. Donc, vous êtes resté à la maison suite au diagnostic, mettons vers 3 ans et demi, là, au diagnostic d'arrière.
L'année d'après. Parce que là, j'étais vraiment contre mes valeurs, autant de maman qui travaille que confrontée à ce diagnostic-là. Ça m'a donné un choc et j'ai décidé de passer un peu de temps à la maison. Donc, c'est ça, je pense que c'est important de prendre du temps. De vivre au jour le jour, mais ça, je pense que c'est un apprentissage d'une vie.
Oui, et en même temps, c'est un beau cadeau à offrir à un enfant. Et ça peut être un élément positif d'une maladie aussi, cet apprentissage-là, assez tôt. J'ai envie de parler de ce réflexe d'être accompagné et d'aller chercher de l'aide. Lors du diagnostic d'Ariel, assez rapidement, vous vous êtes tournée vers l'Association de neurofibromatose du Québec qui est menée par Véronique Maheu pour aller chercher de l'aide. Ça a représenté quoi, cette association-là, pour vous?
J'ai beaucoup parlé avec la personne lorsque j'avais téléphoné. Donc, ça m'a rassurée, ça m'a sécurisée par rapport au fait qu'il y avait d'autres gens qui vivaient ça, qu'on n'était pas seuls. Quand Ariel est entrée à l'école, j'ai appelé à nouveau. On m'a fait parvenir des documents qui s'adressaient aux professeurs.
Parce que c'est
très, très peu connu de la population générale, mais aussi et surtout dans le milieu de l'éducation. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Tantôt, je parlais des hôpitaux. Les urgentologues ne connaissaient pas ça du tout, ce qui est une chose, mais le milieu éducatif non plus ne connaît pas la maladie. Alors, de fournir ce livret-là aux professeurs, et à chaque année, on valide certaines choses par rapport à Ariel avec les professeurs.
C'est à refaire à chaque année avec le nouvel enseignant.
Oui, ça, c'est le côté un peu moins le fun.
Oui. Évidemment, plus ça ira, plus Ariel prendra de l'âge. Est-ce que vous pensez qu'elle sera en mesure, elle, d'expliquer, de trouver les mots? Est-ce que c'est un objectif qu'elle puisse parler elle-même de sa maladie?
Bien, elle en parle. Elle en parle déjà de façon générale. Elle va se concentrer surtout sur ses tâches.
Parce que c'est ce qui la dérange davantage.
Oui, parce que c'est esthétique, comme Dr. Perrault disait tout à l'heure. C'est esthétique, mais ça dérange aussi un enfant quand il arrive dans un nouveau milieu. Les amis lui demandent « Ah, c'est quoi ces tâches-là? C'est quoi ça? » Et toujours obligé de répéter. Et ça, c'est un peu tannant pour elle. Donc, au début, c'était des tâches de naissance. Là, elle en parle d'une autre façon parce qu'elle est plus consciente.
André, son papa, votre futur mari, lui a donné un truc un petit peu pour exprimer cette différence-là, pour prendre de la force aussi dans sa différence. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Bien, il lui avait dit, écoute, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. C'est une différence, mais c'est aussi ce qui te distingue et c'est ce qui fait que tu es toi. On a tous un petit quelque chose comme ça qui nous distingue, peu importe ce que c'est. Mon conjoint a une main un peu plus petite que l'autre, alors il était bien placé pour lui dire, regarde, j'ai ça moi, et t'apprends, le plus tôt tu apprends à vivre avec ce que c'est et ce que tu as, mieux tu vas gérer le reste de ta vie et garder confiance en toi, parce que ça n'affecte aucunement ta personnalité ou ta confiance en toi.
Ou ta beauté. Ou ton intelligence, voilà.
Oui.
Ariel, est-ce qu'elle a vécu de l'intimidation par rapport justement à ces tâches-là qui peuvent la différencier ou faire qu'elle se distingue des autres à quelque part?
Bien, elle en a vécu en deuxième année, l'intimidation, mais je ne crois pas que c'était lié aux tâches. Je ne crois vraiment pas que c'était lié à ça. Mais
elle est peut-être plus sensible ou réceptive.
Elle est plus sensible à ça et elle appréhende un peu le changement d'école de secondaire par rapport à ça parce que là, tout va être à refaire encore.
Elle est en sixième année, c'est
présentement,
ça? C'est charnière. Oui. Là. Et ce passage-là, il est stressant pour tous les enfants.
Oui, pour plusieurs raisons. L'adolescence, on sait, au niveau cognitif, il y a des gros changements qui font partie du processus. Dans le cerveau même, il y a des changements. Mais en plus de ça, on se le cachera pas, tu as tous les changements hormonaux aussi, plus le changement d'école, le changement d'amis. Alors, ça va être des grosses choses qui vont arriver en même temps qu'il va falloir... l'outiller et l'accompagner surtout dans tout ça.
On le disait, Sophie, de plus en plus, Ariel arrive elle-même à trouver les mots à expliquer, que ce soit aux amis, sa maladie. Vous avez dû, à un moment donné, avec André, dire « OK, on lui en parle, on doit lui dire ». Ça s'est passé comment, ce processus-là?
De façon assez inattendue, en fait. On revenait d'un rendez-vous chez l'optométriste et j'étais seule avec elle. Et j'avais dû parler de la neurofibromatose avec l'optométriste. Et de retour dans la voiture, Ariel m'a demandé c'était quoi. Et là, j'étais un peu sans voix parce que je n'étais pas préparée, malgré le fait que elle avait peut-être 8 ans à l'époque. Alors, je lui ai dit que c'était ses tâches de naissance. C'est comme ça que j'ai expliqué. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller avec une certaine délicatesse, puis il ne faut pas trop en mettre non plus parce que il n'y a pas rien d'autre pour l'instant là, en ce qui la concerne.
Il faut savoir doser, il faut quand même expliquer. Il y a parfois une culpabilité aussi de savoir est-ce que je lui en ai assez dit, pas assez. On va en discuter davantage avec Amélie Benoît, elle est psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine et on la joint à l'instant.